Travailleuses, travailleurs, chers amis, chers camarades. Donc, on vient de vous le dire, je suis candidate à l'élection présidentielle pour faire entendre le camp des travailleurs, pour mettre en avant les intérêts des ouvriers, des employés, les intérêts des travailleurs qui sont condamnés au chômage et au petit boulot, les intérêts des travailleurs en invalidité ou à la retraite. Je suis candidate pour que les millions de femmes et d'hommes qui font tourner cette économie, dans des conditions de plus en plus dures et en étant de moins en moins payés, eh bien, puissent dire qu'ils ont des droits pour lesquels ils veulent se battre. Quand on appartient au monde du travail, voter pour Le Pen, Fillon, Valls, Montebourg, Hamon ou Macron, c'est voter contre son camp. C'est tendre le bâton pour se faire battre. Parce qu'ils aspirent tous à gouverner pour le compte de la bourgeoisie. Ils sont tous socialement étrangers à la classe ouvrière. Et malgré leur discours hypocrite en période électorale, ils lui sont hostiles. Fillon vise les voix des beaux quartiers. Et il a le mérite, si on peut dire, d'annoncer la couleur. S'il est élu, ce sera la loi El Khomri puissance 10, la fin de la sécurité sociale, la suppression de centaines de milliers de postes de fonctionnaires. Mais regardez comment les candidats du Parti socialiste cherchent encore à nous balader. Pendant ces 5 dernières années, ils ont fait reculer l'âge de la retraite en augmentant le temps de cotisation. Ils ont augmenté la TVA. Ils ont aidé le grand patronat à baisser les salaires, à augmenter le temps de travail. Ils l'ont aidé à licencier. Et lorsque des travailleurs ont réagi en se battant, par exemple, contre des fermetures d'usines ou des plans de suppression d'emplois à PSA Aulnay, à Goodyear, à Air France ou contre la loi travail, eh bien, ils les ont traités comme des voyous, comme des délinquants. Et les voilà aujourd'hui qu'ils reviennent et qu'ils nous reparlent de justice sociale. Ils ont même redécouvert l'existence des ouvriers et de nos problèmes de nos salaires. Alors aujourd'hui, Montebourg parle de la fiche de paye, Hamon du revenu universel, Valls du revenu décent et Payon essaye de vendre son bouclier fiscal pour les plus modestes. Autrement dit, pour augmenter le pouvoir d'achat des classes populaires, ils prévoient tous de jeter leurs petites piécettes aux pauvres. Mais on ne veut ni de leur boniment, ni de leur charité. Il n'y a jamais eu autant de milliardaires dans ce pays. La plupart des grandes entreprises affichent des bénéfices records. Les seules entreprises du CAC 40 ont distribué 46 milliards de dividendes à leurs actionnaires. En 2016, la fortune de Bernard Arnault, c'est 39 milliards. Eh bien, elle a augmenté de 7 milliards d'euros en une seule année. Vous savez, Bernard Arnault, le patron de LVMH. Alors, ce n'est pas l'aumône que nous voulons. C'est une politique qui réponde à nos intérêts. Avoir un travail et un salaire. Le droit d'être soigné, d'être logé dignement. Le droit pour nos enfants d'accéder à une bonne éducation. Le droit d'avoir une retraite décente. Et ceux qui, parmi les travailleurs, se disent que peut-être Le Pen ferait différemment de tous ces politiciens, se trompent. Parce que Le Pen est une candidate bourgeoise, attachée à l'ordre capitaliste. Et comme les autres, elle reprend tous les mensonges patronaux, en expliquant par exemple qu'il faut baisser le coût du travail, baisser les dépenses publiques, améliorer la compétitivité. Autrement dit, sous prétexte de rendre compétitives les entreprises françaises, eh bien elle justifiera, comme tous les autres, l'allongement du temps de travail, le blocage, voire la baisse des salaires, la réduction des cotisations patronales et de leurs impôts. Et elle n'hésitera pas, comme les dirigeants britanniques après le Brexit, comme Trump aux États-Unis, à baisser encore le taux d'imposition sur les sociétés au nom de cette compétitivité. Tous les sacrifices qu'on nous impose depuis des années au nom de la que l'on nous impose depuis des années seront demain imposés au nom de la souveraineté et du protectionnisme. Le Pen, c'est notre Donald Trump française. Elle se déguise en candidat anti-système pour en prendre la tête et pour faire fructifier la fortune de ses petits copains et des plus riches. Pour plaire aux classes populaires, elle verse des larmes de crocodile sur les chômeurs. et sur les plus pauvres, à condition, bien sûr, qu'ils soient français. Parce que Le Pen, c'est aussi une démagogue qui se sert des préjugés racistes et de la xénophobie et qui les alimente pour ne pas dénoncer les véritables responsables du recul de la condition ouvrière. Madame s'indigne de ce que l'on donne 11 euros par jour à un demandeur d'asile. Mais pas qu'un PDG comme Carlos Ghosn, chez Renault-Nissan, gagne 45 000 euros par jour. Pas qu'une bourgeoise comme Bettencourt empoche 1 million par jour sans rien faire. Elle s'indigne de l'aide médicale d'État, avec laquelle des dizaines de milliers de femmes et d'hommes qui n'ont pas de papier sont soignés. Mais que les trusts pharmaceutiques comme Sanofi réalisent 6-7 milliards de profits et pillent les caisses de la sécurité sociale, ça ne la gêne pas, parce qu'elle est dans le camp des plus riches, justement. Le Pen, Montebourg, Hamon, Valls, Fillon sont en rivalité pour la mangeoire. Mais ils se préparent tous à servir la bourgeoisie. Eh bien, à l'opposé de tous ces gens-là, moi, je suis candidate pour la dénoncer. Je suis candidate pour combattre les Bettencourt, Dassault, Peugeot, Michelin, parce que leur prospérité s'édifie sur le dos de l'ensemble du monde du travail. Parce que 20% de plus pour le grand patronat, c'est 20% de moins pour les travailleurs. Parce que l'augmentation de leur fortune se fait sur la baisse des salaires, sur la baisse des retraites, sur les suppressions d'emplois. Ce sont leurs sinécures ou nos droits. C'est le pouvoir du grand capital ou le pouvoir des travailleurs. Et il n'y a pas d'entre-deux. Il faut choisir son camp. Eh bien, je me présente pour faire entendre ce camp-là, les intérêts des exploités. Et il ne s'agit pas... Et je voulais rajouter qu'il ne s'agit pas seulement des intérêts des salariés ou des chômeurs. Il s'agit des intérêts de tous ceux, artisans, commerçants, petits agriculteurs, auto-entrepreneurs qui doivent travailler pour gagner leur vie et qui ont à se battre eux aussi en permanence contre le grand capital qui les étouffe. C'est le cas par exemple des chauffeurs VTC contre la plateforme Uber, c'est le cas des agriculteurs contre la grande distribution. Et bien sûr, il ne s'agit pas seulement des travailleurs français. Je le précise parce que dans cette élection, la démagogie nationaliste empoisonne tous les débats. C'est une spécialité de Le Pen qui oppose systématiquement les travailleurs les uns aux autres en fonction de leur nationalité, de leur confession. Hein. Elle sème comme cela la haine et le rejet de l'autre. Et elle favorise le repli communautaire. Eh bien, il faut s'y opposer de la seule façon possible au nom de l'idée que nous faisons tous partie d'un même camp, le camp des travailleurs. Alors dans cette élection, j'appelle les travailleurs à affirmer que nous avons des intérêts communs par-delà la diversité de nos métiers, de nos origines, de notre nationalité et de nos statuts. On nous rabâche que notre identité dépend de notre origine, de notre nationalité ou de notre religion. Mais un aspect essentiel de notre identité, c'est que nous sommes des travailleurs, des ouvriers, des employés, des gardiens, des aides-soignants, des caissières, des enseignants. Alors, il faut serrer les rangs, il faut rejeter ceux qui veulent dresser des murs entre nous et il faut affirmer la conscience d'appartenir à une seule et même communauté, celle des travailleurs et des exploités. Et faire entendre nos intérêts de salariés, de chômeurs, de retraités, à l'opposé de la politique patronale, affirmer nos revendications, nos objectifs, c'est ce qu'il y a de plus utile à faire dans cette élection. Parce qu'en réalité, les jeux sont faits. Tous ceux qui sont susceptibles d'accéder au second tour sont des serviteurs zélés de la bourgeoisie. Alors il n'y a pas de suspense. Celui qui sortira des urnes en mai sera un ennemi des travailleurs. Pour nous, le match est truqué. Il ne faut pas marcher dans cette duperie électorale. Mais puisque l'on nous donne la parole au premier tour, eh bien il faut la prendre pour s'exprimer, pour mettre en avant nos préoccupations de travailleurs. Ne laissons pas le monopole de la parole à des politiciens bourgeois qui pensent en bourgeois. Faisons-nous entendre. Nous avons une politique à défendre, une politique indépendante, une politique de classe, un programme. Et le premier point de ce programme, eh bien, c'est d'éradiquer le chômage. Le patronat et à sa suite tous les politiciens prétendent qu'on ne peut pas faire tourner une usine sans commande assurée et garantie. Eh bien nous, travailleurs, nous devons affirmer qu'on ne peut pas vivre sans travail et que notre vie ne peut pas dépendre des aléas et de leurs carnets de commandes, des aléas du marché et des carnets de commandes donc des patrons. Nous ne sommes pas des machines qu'on peut brancher et débrancher. Nous avons une vie, une famille. Les loyers, les factures tombent tous les mois, même quand on a perdu son boulot. Il faut remplir l'estomac des enfants. Alors il faut que tout le monde ait un travail et un salaire. Et la première mesure de bon sens, c'est d'interdire les licenciements et les plans de suppression d'emplois, à commencer par les entreprises qui font des bénéfices sous peine d'expropriation. Regardez PSA. PSA, Peugeot Citroën, a réalisé sur les 18 derniers mois 2,5 milliards de bénéfices. Et PSA a supprimé 17 000 emplois en 3 ans. Sanofi réalise 7 à 8 milliards d'euros de profits chaque année. Et Sanofi a supprimé 4 700 emplois entre 2008 et 2015. Et en supprime encore aujourd'hui 650. Et ça, on peut le dire et on peut faire le compte dans toutes les grandes entreprises. Oh, ils se débrouillent toujours pour ne pas parler de licenciement. Maintenant, le mot licenciement, c'est devenu un mot tabou. Mais avec toutes ces suppressions d'emplois, eh bien, ils font autant de chômeurs de plus. Alors, il faut commencer par arrêter l'hémorragie et par stopper tous ces grands fabricants de chômage. Alors, bien sûr, je n'oublie pas non plus les salariés des petites entreprises. Je sais qu'ils sont eux aussi concernés par les licenciements. Mais leur situation dépend bien souvent des grands groupes. Alors, il faut imposer que tous ces grands groupes soient mis à contribution et payent pour préserver les emplois, y compris dans les petites et moyennes entreprises qu'ils contribuent à étrangler tous les jours. Et puis, parallèlement, puisqu'il y a 6 millions de chômeurs, eh bien, il faut bien sûr créer des millions d'emplois. Il faut en créer pour tous ces jeunes qui arrivent sur le marché du travail, pour ceux qui n'ont droit depuis des années qu'à quelques heures de boulot par-ci, par-là, pour tous ceux qui sont rejetés de la production parce qu'ils sont invalides ou handicapés. C'est possible immédiatement, en imposant que le travail soit réparti entre tous. Et ce serait une mesure salutaire pour l'ensemble du monde du travail. Parce que dans presque toutes les entreprises, dans le privé mais aussi dans le public, la charge de travail a été accrue. Les horaires de travail, auquel il faut d'ailleurs ajouter le temps de transport, de plus en plus long maintenant. Eh bien, tous ces horaires sont devenus insoutenables. Il faut soulager ceux qui ont un emploi en diminuant leur temps de travail et en créant des emplois, de vrais emplois, avec un salaire complet, bien sûr. Et il faut faire exactement l'inverse de ce que la plupart des grandes entreprises font aujourd'hui, ce que Renault fait, en annonçant son deuxième plan de compétitivité, c'est-à-dire vers l'inverse, au lieu de concentrer le travail sur de moins en moins de salariés, en imposant des heures supplémentaires, des samedis travaillés obligatoires, eh bien il faut répartir le travail et embaucher en proportion. Et puis, regardez aussi ce qui se passe avec cette épidémie de grippe. Est-ce qu'il y a trop d'infirmières, d'aides-soignantes? Est-ce qu'il y a trop de personnel dans les hôpitaux? Regardez ce grand gâchis qui est l'éducation nationale. Est-ce qu'il y a trop d'enseignants? Pour ce qui est des logements, il en manque 1 million à un loyer abordable pour un salaire d'ouvrier. Est-ce que nous n'avons plus besoin de maçons, d'ingénieurs? Il y a nombre de besoins à satisfaire dans cette société. Et il y a donc autant d'emplois à créer. Certains nous expliquent qu'avec la modernisation des moyens de production et des gains de productivité, il y aura de moins en moins d'emplois. Mais ça, c'est un raisonnement de patron. Au lieu de créer le chômage pour les uns et les surcharges de travail pour les autres, les robots et les gains de productivité pourraient soulager les salariés et permettre au contraire de baisser les cadences et de baisser le temps de travail pour tous. Mais cela suppose que l'on impose nos intérêts et que les profits passent après nos emplois et après nos salaires. Si nous laissons faire le grand patronat, ce n'est pas 6 millions de chômeurs qu'il y aura bientôt, mais 7, 8 millions. La répartition du travail entre tous sont des objectifs nécessaires pour les travailleurs et ce sont même des perspectives vitales pour l'ensemble de la société. Parce que le chômage est un fléau qui pourrit la société de l'intérieur. Il aggrave la misère, il marginalise, il pousse à l'individualisme et à la compétition entre travailleurs. Et c'est aussi de là que naît la peur de l'autre et la déshumanisation de la société. La lutte contre le chômage est une condition de la survie de la société. Et un second point de notre programme, c'est l'augmentation des salaires et des pensions de retraite. Les principaux candidats, ceux qui sont donc susceptibles d'accéder à l'Élysée et qui monopolisent la parole politique, comme vous le constatez, eh bien, ils nous expliquent tous qu'il est impossible pour les entreprises d'augmenter les salaires. Le Pen, par exemple, explique, je la cite, qu'elle n'a jamais proposé une augmentation du SMIC payée par les entreprises. Parce qu'elle ne veut surtout pas, comme elle dit, créer des difficultés au patronat. Mais les difficultés qu'ont des millions de femmes et d'hommes à se loger, à se soigner et même tout simplement à se nourrir, les privations qu'ils s'infligent parce qu'ils sont payés au lance-pierre, elles n'existent pas. Le Pen et tous les autres candidats s'en moquent, eh bien ce n'est pas notre cas. Alors nous reprenons une des revendications qui est parfois avancée par la CGT, d'élever le SMIC à 1800 euros par mois. La moitié des salariés gagnent moins de 1800 euros net par mois dans ce pays. 1800 euros net, c'est le salaire médian qui divise donc 50% des travailleurs touchent plus, 50% touchent moins. Eh bien oui, nous pensons qu'aucun salaire ne devrait être inférieur à 1800 euros net. Et il faudrait augmenter de 300 euros tous les salaires. Et ce ne serait que du rattrapage après plusieurs décennies de blocage des salaires, qui a démoli progressivement le pouvoir d'achat de tous. Il suffit de faire ses comptes. Il faut payer entre 500 et 700 euros pour le loyer ou le crédit du logement, et parfois c'est plus. 50 ou 100 euros par mois pour le gaz, l'électricité, l'eau, 50 ou 100 euros pour les assurances, la complémentaire santé. Il faut payer l'accès à Internet, le téléphone portable, il faut payer les traites de la voiture, l'assurer, faire le plein. C'est encore 400 ou 500 euros minimum qui s'en vont. Et il faut encore payer les impôts sur le revenu, la taxe d'habitation. À la fin, eh bien, il reste moins d'une vingtaine d'euros par jour pour payer nourriture, vêtements et autres articles de consommation courante ou encore quelques sorties. L'accès aux loisirs et à la culture. Et avec des enfants, c'est encore bien plus serré. Alors, 1800 euros net, c'est bien le minimum qu'il nous faut pour tous les salaires et pour les pensions de retraite. Quant au... C'est le minimum, quand même. Et je voudrais dire que, par rapport aux minima sociaux, et par rapport au RSA, ou par rapport à l'allocation adulte handicapé, eh bien, nous pensons qu'ils doivent être transformés en salaires. Parce que tout le monde doit avoir le droit, je l'ai déjà dit, à être intégré à une activité utile, doit avoir accès à un travail et à un salaire. Je l'ai déjà dit, ces 1800 euros ne sont qu'un rattrapage. Je tiens à le rappeler, il y a 10 ans, le SMIC, qui est aujourd'hui à 1150 euros, était à 1000 euros, il y a 10 ans. Entre-temps, savez-vous de combien ont augmenté le salaire des PDG en 10 ans? 65%. Alors oui, il nous faut cela. Et pour que cette hausse de salaire soit durable, eh bien, il faut qu'elle suive les augmentations. Il faut que les salaires, les pensions de retraite suivent les augmentations du coût de la vie, celle des loyers, du gaz, des mutuelles, des impôts et des taxes. Parce qu'on nous dit qu'il n'y a pas d'inflation. Mais il suffit de comparer sa taxe d'habitation, celle de cette année, à celle de l'année précédente, pour comprendre que l'inflation, bien sûr, elle continue. Alors, nos salaires et nos pensions de retraite, eh bien, ils doivent suivre. Alors, de bonnes âmes, souvent bien payées, et qui vivent avec bien plus de 1 800 € par mois, m'ont déjà expliqué que ce programme était complètement utopique et qu'il forcerait nombre d'entreprises à mettre la clé sous la porte. Je parle de 1 800 € par mois et on me parle d'utopie. C'est donc de l'utopie que d'espérer vivre sans avoir à compter le moindre euro. C'est de l'utopie d'espérer pouvoir se chauffer comme il faut, payer ses études à ses enfants, le permis. Mais prenez Carlos Ghosn, dont j'ai déjà parlé, hein, et qui touche 54 000 € par jour. Prenez les Tavares, tous les PDG de ces grandes entreprises. Prenez les grands actionnaires qui empochent des centaines de milliers d'euros par an. Tous ces gens-là, ils ne vivent pas dans l'utopie. Ils vivent dans le monde d'aujourd'hui, dans notre monde. Alors, dire que 1 800 € par mois, c'est de l'utopie, c'est un choix de classe. Et s'il y a une utopie dans cette affaire, eh bien c'est d'attendre ces augmentations d'un futur président de la République. Parce que pour y parvenir, eh bien il faudra renouer avec les luttes collectives et il faudra imposer un rapport de force avec le patronat tel qu'ils prennent peur et qu'ils finissent par céder. La société est riche, très riche. Il faut prendre l'argent nécessaire sur les profits des entreprises, sur les dividendes distribués aux actionnaires et aux besoins sur leur fortune, accumulés au détriment des travailleurs. C'est la raison pour laquelle il faut aussi imposer la transparence sur les comptes des entreprises. La transparence faite par les travailleurs. Parce que le grand patronat a érigé le mensonge et l'opacité en art de gouverner. Et même s'il est de bon ton pour tous les politiciens de parler de transparence, de dénoncer l'évasion fiscale, il continue de défendre le secret des affaires et d'interdire aux salariés de divulguer les informations dont ils disposent sur les comptes des entreprises. En avril dernier, les députés européens du Parti Socialiste, de l'UDI, du MoDem, de la droite et du Front National se sont tous retrouvés pour voter ensemble la directive européenne sur la protection du secret des affaires. Et pour cause, si les travailleurs avaient accès à toutes ces comptabilités, eh bien ils mesureraient l'escroquerie qui consiste à parler de coût du travail, par exemple. Parce que le travail ne coûte pas aux patrons, il leur rapporte. Le moindre centime que la bourgeoisie gagne, lui, vient de l'exploitation du travail. Les millions d'euros que dépensent les riches pour maintenir leur train de vie de parasite sont extraits de la peine et de la sueur des travailleurs. Alors en levant le secret bancaire et commercial, eh bien, on permettrait aux comptables, aux secrétaires, aux magasiniers, à tous les travailleurs, de communiquer les informations dont ils disposent. Il y a bien des salariés révoltés par les agissements de leur direction, parce qu'ils savent qu'elles sont contraires aux intérêts des travailleurs, de la population ou de l'environnement. Ils sont les premiers souvent à tirer la sonnette d'alarme, parce qu'ils sont aux premières loges. Alors il faut leur donner les moyens légaux de tout dire de ce qu'ils voient sans être menacés de licenciement ou de mesures de rétorsion. Il faut supprimer le secret des affaires. Cette mesure est un objectif essentiel parce qu'il modifierait le rapport de force entre le patronat et les travailleurs en donnant de nouvelles armes aux travailleurs. Il en serait fini du chantage patronal, des rumeurs, des fausses informations. Les travailleurs sauraient à quoi s'en tenir. Ils pourraient anticiper, s'organiser face aux attaques patronales et prendre l'initiative pour imposer leurs intérêts. Alors voilà notre programme. Ce n'est pas, comme tous les autres, un catalogue de promesses numérotées qui seront aussi vite bafouées qu'elles ont été inventées. C'est un programme qui doit nous orienter pour nos combats quotidiens. Et c'est un programme de survie pour les couches populaires. C'est un programme qui découle de nos besoins. Et c'est aussi le plus radical. Parce que nous sommes les seuls à nous engager totalement du côté des travailleurs. Parce que, contrairement aux autres candidats, nous ne cherchons pas à épargner la bourgeoisie et ses profits. Nous la combattons. Et nous sommes prêts à la combattre jusqu'au bout. C'est-à-dire jusqu'à l'exproprier en réquisitionnant les grandes entreprises. Et puis parce que, contrairement aux autres candidats, Nous ne considérons pas la compétitivité, le marché et la concurrence comme des lois de la nature, mais comme les bases d'un système établi par une minorité et qui ne fonctionne que pour une minorité. Nous pouvons défendre ces intérêts vitaux pour le monde du travail parce que nous sommes communistes révolutionnaires. Alors j'appelle les travailleurs qui sont d'accord avec ce programme à voter pour ma candidature. Je les appelle à faire un vote de classe et un vote de combativité. Bien sûr, voter, ce n'est pas encore agir et se battre réellement. Mais le combat, il doit commencer dans les têtes. On ne peut pas se lancer dans la bagarre sans être sûr de sa légitimité. On ne peut pas gagner sans être convaincu de nos intérêts, sans comprendre où sont nos ennemis, nos faux amis. Tout cela se forge dans le combat des idées et dans le combat politique. Le premier tour de cette élection présidentielle nous donne l'opportunité d'avancer dans cette direction-là, alors il faut y aller. Nous n'avons pas encore de parti à opposer à la bourgeoisie. En tout cas, pas de parti capable de mener le combat politique à armes égales avec les partis bourgeois. Et c'est tout le problème. Si les conditions d'existence des travailleurs reculent depuis des décennies, s'ils sont désorientés, si la confusion règne dans beaucoup de têtes, c'est qu'il n'y a plus de parti ouvrier digne de ce nom depuis longtemps. Le vote pour ma candidature permettra, le temps d'une élection, de faire apparaître les travailleurs comme une force politique, comme un camp politique. Mais il faut qu'ils se maintiennent après les élections, car les travailleurs n'ont pas seulement besoin d'exprimer leurs intérêts au moment de ces échéances électorales, ils ont besoin de mener le combat tous les jours, au quotidien, dans les entreprises, en permanence, contre la politique anti-ouvrière relayée par les gouvernements, qu'ils soient de droite, qu'ils soient de gauche. Eh bien cela, c'est le rôle d'un parti. Il faut un parti qui affirme que la société est divisée en deux classes, aux intérêts irréconciliables, et que nous, nous devons nous battre en ne comptant que sur nos propres forces pour défendre notre droit à l'existence. Un parti qui affirmera que les travailleurs peuvent se passer du grand capital parce que ce sont eux qui font tout fonctionner dans la société. Voter, ce n'est pas encore construire ce parti, mais c'est déjà rassembler de façon ponctuelle derrière un drapeau. Et d'élection en élection, de mouvement de grève, en manifestation, eh bien cela participe de la construction d'un parti. Alors, votez et entraînez les gens autour de vous pour faire entendre le camp des travailleurs et aidez-nous à construire un parti pour les travailleurs. À gauche de la gauche, le vote pour Mélenchon n'a absolument pas cette signification. Mélenchon a lancé le mouvement de la France insoumise pour mener sa campagne. Dans certains de ses meetings, il parle de la classe ouvrière, de son rôle indispensable et de ses droits. C'est une petite musique plaisante aux oreilles. Mais concrètement, elle débouche sur bien peu d'engagements concrets. Mélenchon s'engage à abroger la loi El Khomri, s'engage à monter le SMIC à 1300 euros net à peu près, et il s'engage à faire les vraies 35 heures. Mais même ces quelques promesses à destination des travailleurs sont des promesses en l'air. Parce que tant qu'on ne dit pas comment on l'imposera au grand capital, qui décide de tout aujourd'hui, tant que l'on ne dit pas, que l'on ne se dit pas prêt à arracher ce pouvoir à la minorité capitaliste, eh bien on parle pour ne rien dire. C'est bien beau de dénoncer la finance. Hollande, en son temps, l'avait fait superbement. Mais il faut dire si l'on est prêt ou pas à la renverser. Mélenchon se dit prêt à renverser beaucoup de choses. La Ve République, les traités européens, mais pas le pouvoir de la bourgeoisie, pas la propriété privée des moyens de production. S'il y a quelque chose qu'il ne remet jamais en cause, c'est le pouvoir, justement, du patronat. C'est la propriété privée de ces grandes entreprises. Devant ce pouvoir-là, l'insoumis Mélenchon s'incline respectueusement. Et puis, avec d'autres, y compris Le Pen et Montebourg, Mélenchon se veut le champion du souverainisme et de l'indépendance de la France. En renégociant ou en sortant de l'Union européenne et de l'OTAN, nous redeviendrions souverains. Le pouvoir reviendrait au peuple, nous dit-il. Ce sont des mots en l'air. Les seuls souverains dans cette société, ce sont les capitalistes. C'est Michelin, le roi du caoutchouc, Bettencourt, la reine des cosmétiques. C'est Sanofi, le grand maître des médicaments. Quand on est exploité, on est souverain de rien du tout. Que les lois se décident en France ou dans une cinquième, en France, dans une cinquième ou une sixième république, ou à l'échelle de l'Europe. Quand on est exploité, eh bien on est dépendant de cette classe qui possède les capitaux et qui a le pouvoir de nous embaucher ou pas, de nous verser un salaire entier ou pas, de fixer nos horaires, les dates de nos congés. On est dépendant pour tout, pour le choix de son métier, de son poste de travail, pour le choix de son lieu de travail. Alors parler de souveraineté, c'est encore une façon de brouiller les consciences des travailleurs et de les détourner de leur combat de classe. Alors laissons ces mots d'ordre de souveraineté du peuple ou de la France aux partisans de la bourgeoisie et reprenons les objectifs qui ont toujours été ceux du mouvement ouvrier, l'émancipation des exploités à l'échelle de la planète. C'est sûr, Mélenchon fera plus de voix que moi, parce qu'il est compatible avec le système. Parce qu'avec lui, tous ceux qui cherchent un raccourci en dehors des luttes collectives et qui veulent se raccrocher une énième fois à un sauveur suprême sont très bien servis. Mais les voix qui se porteront sur Mélenchon ne mèneront nulle part, si ce n'est à de nouvelles désillusions. En revanche, les quelques centaines de milliers de voix qui se porteront sur ma candidature auront, elles, contribué à élever la conscience de classe. Elles auront armé politiquement les travailleurs. On ne peut pas regretter le recul de la conscience ouvrière et renoncer à affirmer sa propre conscience de classe quand on en a l'occasion politique. Oui, le monde ouvrier a besoin de repères politiques et d'une boussole. Eh bien, il faut que l'élection soit l'occasion de les mettre en avant. Et à l'inverse de Mélenchon et de son mouvement, qui n'existe d'ailleurs que pour porter sa candidature à la présidentielle, eh bien, notre programme et le vote pour faire entendre le camp des travailleurs sera constructif. Il confortera le camp des travailleurs, il confortera ceux parmi les travailleurs qui sont combatifs et qui sont conscients, et il nous aidera à construire le parti qui est nécessaire aux travailleurs. Malgré toutes les trahisons subies, il faut que le mouvement ouvrier retrouve confiance en lui-même. Appartenir au monde du travail ne doit plus être synonyme de victime. Appartenir au monde du travail doit être un motif de fierté. Nous, ouvriers, employés, enseignants, cheminots, femmes de ménage, fonctionnaires, caissières, nous faisons tout tourner, nous produisons toutes les richesses, y compris les super profits. Les progrès des transports, de la médecine, toutes les prouesses techniques, c'est nous. Oui, nous pouvons être fiers d'appartenir à la classe des travailleurs. Nous sommes indispensables. La bourgeoisie, les actionnaires, tous ces grands PDG prétendent être la clé de voûte de l'économie. Mais ils ne sont rien sans nous. À quoi d'ailleurs pourraient servir leurs milliards si nous ne faisons plus marcher les trains et les avions, si nous ne faisons plus fonctionner les hôtels et les restaurants de luxe? Si nous ne faisions plus tourner leurs bureaux et leurs usines, où feraient-ils fructifier leur fortune? Alors oui, nous représentons une force sociale. Une force sociale qui a prouvé à bien des reprises dans le passé qu'elle n'était pas vouée à subir, mais qu'elle pouvait aussi se battre. Nous fêtons cette année le centenaire de la révolution russe. Il y a 100 ans, les travailleurs et les paysans russes ont fait la preuve que la classe ouvrière pouvait prendre le pouvoir et s'en servir pour transformer la société par en bas et pour en créer une autre, radicalement différente, une autre société basée sur la propriété collective, sans patron, sans la domination de l'argent et du profit. Une société et une économie d'abord organisées pour répondre aux besoins de toute la population. Il faut connaître cette histoire. Car le peu de temps que les travailleurs sont restés au pouvoir, eh bien, ils ont réalisé ce qu'aucun autre gouvernement n'a jamais fait. Aussitôt mis en place, le pouvoir révolutionnaire a soutenu les paysans pour qu'ils se distribuent les terres. Il a organisé la production pour répondre aux besoins urgents de la population. Il a réquisitionné les logements pour que tout le monde ait un toit. en contrôlant et en expropriant quand la bourgeoisie ne voulait pas collaborer. Il a mis fin aussi à la participation de son pays à la boucherie que constituait la Première Guerre mondiale. Il a donné la possibilité à tous les peuples qui étaient sous la domination de la Russie de se libérer et d'être indépendants. Il a non seulement donné l'égalité des droits aux femmes, mais il les a associés à tous les niveaux de pouvoir. Quel autre gouvernement prétendument démocratique a réalisé cela? Aucun. Et même si le stalinisme a finalement pris le dessus, en déformant, en caricaturant et en trahissant les aspirations des révolutionnaires, eh bien cela ne peut pas effacer ce que les travailleurs ont réalisé. Alors oui, les travailleurs ont de quoi être fiers de ce que leur classe sociale a accompli dans le passé. Et la classe ouvrière n'est pas une classe du passé. Elle représente au contraire l'avenir. Car les travailleurs sont les seuls à pouvoir impulser une société débarrassée de l'exploitation, du capitalisme, de la concurrence, de ses crises et de ses guerres. Parce que le capitalisme ne pousse pas seulement les opprimés à la déchéance matérielle, il pousse toute la société à la déchéance morale. Regardez comment aujourd'hui les migrants sont traités. Aujourd'hui, la justice a même inventé un nouveau crime, le crime d'humanité. Vous savez, ce sont ces femmes et ces hommes qui se sont engagés dans la vallée de la Roya à héberger et à donner de quoi se nourrir aux migrants qui sont aujourd'hui devant la justice pour répondre justement de ce crime. Alors oui, la société s'enfonce dans la barbarie. Quand ce n'est pas la barbarie des bombardements ou du terrorisme, c'est la barbarie des murs, des barbelés que l'on oppose aux centaines de milliers de femmes et d'hommes qui fuient l'enfer. D'ailleurs, là-dessus, les principaux candidats sont d'accord. Il faut des frontières de plus en plus étanches, nous disent-ils. Et nous nous répétons en boucle qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Sauf que ce n'est pas la misère pour tout le monde. Dans les beaux quartiers, l'argent coule à flot. Les caprices de riches se chiffrent par centaines de millions. L'argent gaspillé dans la spéculation se compte par dizaines de milliards. Et on ne pourrait rien faire contre la misère. Ils se servent du drame des migrants pour nous prêcher la résignation. D'ailleurs, ils nous disent on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, exactement comme ils nous expliquent qu'on ne peut pas assurer un travail à tous, ou qu'on ne peut pas espérer tous avoir une retraite à 60 ans ou à 62 ans. En réalité, la misère, ce sont eux qui la fabriquent. Ils la fabriquent en Syrie par leurs manœuvres et par leurs bombes. Ils la fabriquent ici par le chômage et par la précarité. Alors, dans cette élection, montrons qu'il y a des travailleurs qui ne se trompent pas d'ennemis. Nous sommes tous des migrants potentiels. Alors affirmons pour tous les opprimés de cette terre la liberté de circulation et d'installation. Affirmons que les travailleurs n'ont pas à se battre entre eux pour se partager la misère, mais qu'ils ont à imposer le contrôle sur les richesses qu'ils produisent pour s'opposer justement à ce qu'elles soient confisquées par une minorité. En débarrassant l'économie et la société de la dictature d'une minorité parasite et irresponsable, les travailleurs peuvent supprimer la concurrence entre eux. Ils peuvent supprimer la compétition économique entre les peuples en la remplaçant par la collaboration fraternelle de tous les exploités de cette terre. Ce faisant, ils feront reculer le nationalisme, le racisme et la xénophobie et ils enlèveront tout objet aux guerres. Alors voilà, pour nous, tout ce que représente le camp des travailleurs. Loin, très loin de l'individualisme effréné du capitalisme, qui pousse à l'indifférence, à l'isolement ou à la haine de l'autre, et qui fait le lit de la délinquance, du fanatisme religieux, eh bien les travailleurs sont la seule force sociale capable de construire une société de justice, de fraternité, débarrassée des classes sociales et de l'exploitation, une société qui donne un sens à la vie de chacun et qui réhumanise la société. Alors cette perspective, c'est la perspective d'une société communiste. Elle peut sembler lointaine, et en même temps, tout dans la situation, la crise économique, les guerres, la crise écologique, la montée des idées réactionnaires indiquent qu'il y a urgence à ce que la société change du tout au tout. Alors saisissons-nous de toutes les opportunités pour mener le combat politique. Et cela commence dans cette campagne présidentielle par affirmer que nous existons et que nous nous battrons pour nos droits. Nous sommes, je le redis, nous sommes les forces vives de la société. Et nous sommes nombreux. Depuis des décennies, l'élite dite intellectuelle explique qu'il n'y a plus d'ouvriers, qu'il n'y a plus de classe ouvrière. Aujourd'hui, on entend même parler des travailleurs comme d'une espèce en voie de disparition. Mais qui sommes-nous ? Nos familles, nos barres d'immeubles, nos quartiers, sont-ils composés de rentiers ? Non, de femmes et d'hommes qui travaillent dans les métiers bien souvent les plus pénibles. Et l'économie que l'on nous vend comme moderne, l'économie Uber, eh bien elle produit elle aussi des travailleurs, dont des chauffeurs qui étaient fiers il y a 2 ans, 1 an d'être indépendants, mais qui aujourd'hui se battent pour être embauchés en tant que salariés, pour avoir un contrat de travail. Alors oui, la classe ouvrière existe. Et s'il y en a qui peuvent prétendre qu'elle n'existe plus, c'est parce qu'elle se rend invisible politiquement. On l'a vu intervenir lors de la mobilisation contre la loi El Khomri. Et encore, ce n'était qu'une fraction de la classe ouvrière qui s'était mobilisée. Il y avait une grosse réserve encore dans les entreprises. Eh bien, il faut que la classe ouvrière s'exprime aussi sur la scène politique. On nous met dans la tête que l'élection doit servir à élire quelqu'un. Avec cette logique, forcément, il faut parier sur le tiercé de tête, et je n'en fais pas partie. Mais encore une fois, choisir le prochain président de la République qui nous portera les coups n'a aucun sens pour nous. Imaginez qu'une élection soit organisée dans votre entreprise pour élire le PDG qui aura la mission de mettre en œuvre le énième plan de licenciement ou le énième plan de compétitivité. Est-ce que vous voteriez pour l'un ou pour l'autre? Dans cette élection, on nous demande d'élire le prochain président qui fera reculer encore les retraites, qui imposera plus de liberté pour que les patrons nous exploitent, qui les aidera à baisser nos conditions de vie et de travail. Eh bien, il ne faut pas marcher là-dedans. Dans cette élection, je le redis, l'enjeu ne doit pas être d'élire l'un plutôt que l'autre, mais de nous battre pour nos idées, pour notre programme, pour nos intérêts. Et il faut le faire sans craindre d'être minoritaire ou à contre-courant. Encore une fois, à quoi cela sert-il de voter avec la majorité quand cela conduit à élire un adversaire ? Aujourd'hui, combien de travailleurs se mordent les doigts d'avoir voté pour Hollande en 2012 ? Et il faudrait remettre ça avec un autre ? Croire qu'il faut voter utile ou voter pour le moins pire pour essayer de se protéger est un leurre aussi. Il n'y aura pas de moins pire pour le monde ouvrier s'il ne se bat pas collectivement, s'il ne renoue pas avec les luttes puissantes. Quant à s'abstenir, ce n'est pas une preuve de conscience ou de radicalisme. S'abstenir, c'est se soumettre. Et puis c'est déserter. Encore une fois, si nous ne défendons pas nos idées, nos perspectives, qui le fera ? Personne ne mènera le combat à notre place. Parfois, on ne trouve pas le moyen de se battre, de faire grève, de manifester ou simplement de protester parce qu'on est seul ou parce que le rapport de force est trop défavorable. Mais voter, s'exprimer dans l'urne est un geste à la portée de tous. C'est une question de conscience et d'avoir le courage de ses idées. Il n'y a pas de petits combats, il n'y a pas de petits gestes. Quand on est minoritaire, la moindre voix compte et peut porter. Alors il faut entraîner le maximum de ceux qui nous entourent à joindre leur voix à la nôtre. Nous sommes, c'est vrai, à contre-courant. Mais quand le courant porte dans une direction aussi réactionnaire, aussi infecte, voire aussi barbare, quand le courant pousse à la soumission et à la résignation, eh bien oui, on peut être fier d'être à contre-courant. Je suis la candidate, vous l'avez compris. Les institutions sont faites comme ça. Il fallait un nom, S'il en avait fallu 10, 100, 1000, eh ben on aurait présenté 10, 100, 1000, évidemment. Hein, et donc, mes camarades m'ont choisi pour porter cette campagne. Mais ce n'est sûrement pas une campagne personnelle. Bien sûr, je serai en première ligne dans les médias et je me battrai comme je pourrai sur les plateaux de télé à chaque fois que l'on me donnera la parole. Elles seront rares, ces fois-là. Ce sera d'autant plus difficile pour moi, mais je ferai mon maximum. Ceci dit, en quelques minutes, je ne ferai pas de miracle. Je convaincrai surtout les convaincus. Je toucherai peut-être aussi tous ceux qui sont révoltés par la situation et qui doutent de leurs convictions et qui n'osent plus avoir d'idéal. Ce n'est déjà pas rien. Une campagne comme celle-ci, relayée au niveau national, permet justement de s'adresser à des millions de travailleurs. Et parmi ces millions, eh bien, il y en a plusieurs centaines de milliers qui partagent à un degré ou à un autre ces idées. Ma candidature leur permettra de rompre leur isolement et de se rallier à un camp. Elle leur permettra de se conforter dans leurs convictions. C'est déjà quelque chose de très important. Mais bien plus largement, il y a aussi tous ceux qui se posent des questions, qui sont perdus, qui s'interrogent. Il y a encore tous ceux qui retombent dans le panneau des illusions électoralistes, tous ceux qui sont tellement écœurés qu'ils ne veulent même plus entendre parler de politique, de vote. Ils sont dans notre famille. Ce sont des amis, des voisins, des collègues de boulot. C'est vous qui pouvez les toucher. En prenant le temps de la discussion, il faut essayer de les convaincre, de leur donner envie de s'exprimer en tant que travailleurs, salariés, chômeurs. Au-delà du résultat, ce qui comptera, ce sont toutes les discussions que vous aurez eues. Le simple fait d'avoir affirmé des convictions, d'avoir fait réfléchir, d'avoir apporté des réponses, d'avoir fait avancer des idées parmi les nôtres est important. Nous sommes une petite organisation, mais les idées que nous portons nous dépassent parce qu'elles sont inscrites dans les bases mêmes de la société. Elles reflètent la lutte de classe à laquelle des millions d'exploités sont confrontés et tôt ou tard, ils auront besoin de ces idées. Alors, rien n'est à négliger. Toutes les discussions sont utiles. Et je le redis, n'attendez pas que j'apparaisse plus dans les médias. Je serai absente de toutes les grandes émissions politiques jusqu'aux 15 derniers jours, où là, la législation les oblige à m'inviter. Voilà, on ne fait pas partie du paysage politique. Et d'un certain côté, c'est une reconnaissance. Oui, nous ne faisons pas partie de ce personnel politique qui s'accommode de cet ordre social injuste. Et je le précise, je pense que personne n'en doutait, mais l'Élysée ou Matignon, ni Arlette Laguiller, ni moi-même n'en avons jamais rêvé. Ni moi, ni aucun des camarades de lutte ouvrière n'aspirons à prendre quelque responsabilité que ce soit dans ce système qui est basé sur l'exploitation et sur l'oppression. Nous voulons le renverser. Alors bien sûr, nous ne faisons pas partie des meubles, hein, pour les grands médias, évidemment. Mais nous voulons avoir la confiance des travailleurs sur les bases d'une politique honnête, juste, une politique qui ne soit pas démagogique, qui ne vende pas de l'espoir, qui ne suscite pas d'illusions, mais la conscience. Alors, menons notre campagne avec nos moyens de militants. Et pour que ce soit une bonne campagne, eh bien, il faut que ce soit aussi votre campagne. Alors, là, je me répète, mais bon, pour finir, en conclusion, hein, le seul enjeu, c'est de mener le combat politique, de rassembler les travailleurs derrière une politique qui représente leurs intérêts. Au lendemain de l'élection, en mai prochain, qu'est-ce qui changera pour nous? On retournera au travail, pour ceux qui en ont un. Beaucoup d'autres iront pointer à Pôle emploi ou à l'agence d'intérim et on se retrouvera confronté aux mêmes chefs, aux mêmes patrons, aux mêmes actionnaires invisibles mais tout puissants. On se retrouvera confronté à son banquier, à son propriétaire qui n'admet aucun retard de paiement, même si on a perdu son boulot. On se retrouvera confronté au pouvoir de l'État qui sait dérouler le tapis rouge pour les plus riches mais qui est sans pitié pour les classes populaires. Autrement dit, rien de fondamental n'aura à changer pour nous. Parce que ces élections ne changeront pas notre sort d'exploité, notre condition d'exploiter, ni cet ordre social dominé par l'argent et la bourgeoisie. La nouveauté, c'est que le petit personnel politique aura changé pour la bourgeoisie. Les riches auront un nouveau président de la République à leur disposition. Et pour nous, le combat continuera. Alors, dès aujourd'hui, dans cette campagne, levons notre drapeau, celui des intérêts des travailleurs et des luttes collectives. Votez et faites voter pour faire entendre le camp des travailleurs.